Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous en sommes sur l'Apocalypse. Nous avons vu que ça veut dire révélation, quelque chose qui est dévoilé. En fait, il y a une connaissance, mais il y a un voile dessus parce que nos yeux de chair nous empêchent de voir ces choses. Et d'un seul coup, Dieu enlève ce voile. Et nous avons vu que c'est le dernier livre de la Bible, ça va clôturer la révélation que Dieu voulait donner aux hommes. Nous avons vu 10 choses qui sont importantes quand nous étudions l'Apocalypse. Nous avons vu que c'est l'histoire finale de l'humanité. Donc. Que ce n'est pas un livre de catastrophe, mais ça nous parle du royaume de Dieu. C'est Dieu qui exerce aussi ses jugements sur la terre. Et
qu'il
y a une confrontation de puissance entre la puissance de Dieu et la puissance du diable, nous le verrons. Nous avons dans ce livre des révélations sur le ciel et le monde invisible que nous n'avons pas ailleurs dans la parole. Nous avons vu que ce livre n'est pas forcément chronologique, mais c'est une succession de visions. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de symboles dans l'Apocalypse et il faudra faire très attention avec ces symboles. Ce n'est pas un livre pour nous faire peur à nous les chrétiens, mais au contraire. Pour nous montrer l'éternité. Et ce qui nous est réservé dans l'éternité. Montrer la gloire et la victoire finale de
Christ.
Et la défaite irrévocable des ténèbres. Nous avons vu que c'est la gloire qui nous est réservée dans l'éternité. Ce livre montre aussi que le pécheur doit se repentir. Et que nous devons prévenir les pécheurs. Du jugement qui va venir. Beaucoup se moquent de nous quand nous disons cela. Mais ils le verront de leurs yeux. Pour ceux qui refusent de se repentir. Et nous, nous verrons de nos yeux. La gloire qui nous est réservée dans l'éternité. Et le dixième point que nous avons vu, c'est que nous ne devons pas spéculer sur les nouvelles, tout ce qui se passe dans ce monde. Car ce n'est pas décrit dans l'Apocalypse. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont là. Dans la vie de tous les jours, qui nous permettent de nous dire, tiens, Dieu est en train de, je dirais, il y a les éléments qui permettront à Dieu de faire ce qu'il doit faire et ce qu'il a écrit dans l'Apocalypse. Mais ne commentez pas la moindre chose qui se passe en Israël à la lumière de l'Apocalypse, c'est faux. Et je vous le montrerai. Nous étudierons, je vous ai dit aussi, le livre de Daniel. Certaines révélations aussi de la dispensation de l'Église que Paul a reçue. On étudiera Matthieu, bien sûr. Zacharie et quelques autres prophètes de l'Ancien Testament. Et bien évidemment, le livre de Daniel qui nous intéressera particulièrement. Donc, nous avions commencé à étudier les premiers versets de l'Apocalypse. Et nous avons vu un certain nombre de choses. Dieu donne une révélation à Jean. Et je vous ai montré que n'importe qui, je dirais, ne peut pas dire j'ai reçu une révélation et l'écrire.
Mais
que Dieu a donné à certaines personnes dans l'histoire de l'Église qui avaient vu de façon visible le Seigneur Jésus-Christ,
de
pouvoir écrire d'une manière inspirée. Et donc, c'est en aucun cas Jean qui a décidé par lui-même de vouloir écrire ce qu'il a vu.
Mais
ça lui a été ordonné. Et on a vu au verset 3, donc lire, écouter et garder, les termes de cette prophétie. Et nous avons vu que lire simplement ne suffit pas. Écouter ne suffit pas. Mais il faut garder, ça veut dire qu'il va falloir se comporter par rapport à cette révélation. C'est un comportement que Dieu nous demande par rapport à la révélation qu'il nous donne dans l'Écriture. Nous avons vu la prophétie et on a vu la simple prophétie et la prophétie qui prédit des choses. Et là, évidemment, Dieu a prédit un certain nombre de choses au travers de ce qu'il a donné à Jean. Et nous avons vu que Dieu a différents types de volonté. Parce qu'il montre, quand il dit des choses, il y a ce qu'on appelle la volonté désirée de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu veut pour l'homme. Par exemple, il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous ses enfants soient prospères. Il veut que tous soient guéris. Il veut que tous soient remplis. Il veut que tous vivent dans la paix. Mais là, évidemment, il y a quelque chose que nous devons faire. Nous devons avoir la foi, nous devons être obéissants. Donc c'est conditionnel, cette volonté. Nous avons vu qu'il y a la volonté permissive de Dieu. Aujourd'hui, la terre est dans la volonté permissive de Dieu. Parce que Dieu a permis le péché d'Adam et Ève. Ça
n'a
jamais été sa volonté. Mais il l'a permis pour un temps. Pourquoi, comment, tout ça reste quand même de grands mystères. Et nous avons vu qu'il y a la volonté souveraine de Dieu. Et l'Apocalypse est la volonté souveraine de Dieu qui est révélée.
C'est
très important que tout ce que nous étudions dans la fin des temps, c'est exactement la volonté souveraine de Dieu. Ça veut dire que tel que Dieu l'a écrit, ça se produira. L'homme ne pourra rien faire pour devancer ou pour freiner cette volonté souveraine. Dieu a décidé un certain nombre de choses qui vont se produire. Et nous verrons le déclenchement de ces événements prophétiques. Par quoi c'est conditionné. Nous verrons qu'à partir de l'enlèvement, tout va se produire. Tel que ça a été écrit. Et dans les détails exacts où ça a été écrit. Ce que vous lisez dans l'Apocalypse, vous le verrez tel quel. Personne ne pourra l'empêcher. Ça s'appelle la volonté souveraine de Dieu. La volonté souveraine de Dieu ne dépend pas de la foi des hommes ou de leur désobéissance, mais ce sont des choses arrêtées que personne ne peut changer. C'est écrit d'avance et ça s'accomplira sans appel. Alors nous en étions au verset 4 où nous avons étudié Jean aux sept églises qui sont en Asie. On va revenir là-dessus, Asie mineure, je vous rappelle, la Turquie, on va revoir les cartes après. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Alors nous en étions sur ce verset, le verset 4. Et nous avons vu que Dieu n'a pas sept esprits. Mais il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Mais il y a sept facettes de l'Esprit de Dieu. Et nous avions vu Ésaïe chapitre 11, du verset 1 à 3, et nous étions arrêtés à une partie du commentaire sur Ésaïe 11. Et je vous rappelle que dans cette étude, nous allons étudier verset après verset. Il y a énormément de richesses, donc ça va durer très très longtemps. temps.
Narababwiye ko muri kino cigwa tuzokwiga umurongo kundi harimo ubutunzi bwinshi bizomara igihe kirekire.
Il est dit au chapitre 11 de Ésaïe, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et le rejeton de ses racines fructifiera. Verset 2, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de vaillance, de connaissance, de crainte, excusez-moi. Il respirera la crainte dans le sens du discernement de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence et il n'arbitrera pas sur un oui-dire.
Ngo kugishitsi cha Isaïe hazobaduka agashami kandi umunago wanaze mu mizi yiwe uzokwama muhe mu uhoraho azoba ari kuriwe impuhe mu yubwenge niyo gutahura impuhe mu yo kuja inama niyo ubushobozi impuhe mu yukumenya uhoraho niyo kumwubaha ikizomuhimbarana kubaho uhoraho ntazocira urubanza kubipfa kubonekera amaso yiwe kandi ntazorushinga kuvyo apfa kumvisha amatwi.
En fait, on voit ici qu'il y a cette facette de l'esprit de Dieu.
Aha turabona batwereka imice impande ndwi zampwe mu Imana.
Esprit de sagesse.
Ngo mpwe mu ubwenge.
Et en fait, on voit ici que la sagesse, c'est vraiment appliquer la connaissance dans un environnement donné.
Aha rero twaravuze icari cy'ubwenge gukoresha ubumenyi mu gihe urimo.
C'est-à-dire amener des solutions divines aux problèmes humains.
Nukuvuga ngo gutanga inyishu z'Imana ku ngorane z'abana b'abantu.
Ensuite, esprit d'intelligence.
Hanyuma ngo impwemu y'ugutahura.
Et là, c'est vraiment une révélation sur la compréhension spirituelle du royaume.
Aha rero bica bifatana bisobanura ngo ni ubwenge kugutahura iby'ubwami bw'Imana.
Et je vous ai dit, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont aucune compréhension du royaume de Dieu.
Narababwinge ne haraba Kristo benshi usanga badatahura
ibyo bwami. Pourtant, ils sont nés dans le royaume de Dieu.
Ariko barakije bari mu bwami bw'Imana.
Mais quand on regarde,
ariko baraba,
on sent qu'ils n'ont pas l'intelligence du royaume.
Ukabona ko ivyo ubwenge
by'ubwami badabifise. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit beaucoup de gens qui prennent des décisions et qui disent que c'est Dieu qui leur a dit.
Ugasanga barafata nk'ingingo akavuga ngo ni Imana yamubwiye.
Ou qui parfois prennent des versets biblique et vous dites mais ça n'a rien à voir avec ce que tu dis là.
Changi agafata nk'umurongo wa Bibiliya ukumva ko atanahamwe bihuriye na gato.
Et en plus il se pense très spirituel.
Kanda gacayi umva ko ari
uwimwe. Et on sent qu'il n'a aucune intelligence.
Ariko ukumva ko ubwenge
au niveau du royaume de Dieu parce qu'ils n'ont pas développé leur relation avec le Saint-Esprit.
Kubijanye n'ubwami bw'Imana kuko atateje imbere imigendere
n'amwe mu Imana. C'est quelque chose que vous devez bien comprendre dans votre vie spirituelle.
Limbari ki numukene gutahura mu buzima bw'impwe.
C'est qu'il faut vous appreniez à développer votre relation avec le Saint-Esprit.
Nuko mukene guteza imbere kubana kwanyu na mpwemu
yera. À découvrir ces merveilleuses facettes de l'esprit de Dieu.
No guhishurwa gutahura impande z'izindi
zose tuvuga. C'est son onction qui vous donnera de l'intelligence sur le royaume.
Nubwe ni amavuta yiwe niyo azoguha ugutahura
ubwami bw'Imana. De la compréhension non pas avec votre intelligence naturelle.
Gutahura atari nubwenge ubu busanzwe dufise.
Mais avec son intelligence spirituelle.
Ariko dukoresheje ugutahura ko mu buryo bw'impwemu.
Et nous l'avons vu la dernière fois, je ne vais pas revenir dessus.
Twarabibonye buherutse
singiye. Ensuite nous avons vu un esprit de conseil. Et on a vu que le Saint-Esprit est là pour nous conseiller. Et parfois, nous sommes avec des personnes qui ont le Saint-Esprit en eux et qui vous parlent et qui vous conseillent. Le Saint-Esprit est en train de vous conseiller au travers de ces personnes. Et rappelez-vous d'une chose. Dans votre vie chrétienne, vous ne pourrez jamais réussir seul. Vous avez besoin des autres. Et vous avez besoin aussi d'écouter les autres. Bien sûr, fais attention à ton entourage spirituel. Nous en avions parlé la dernière fois. Ensuite, quatrième caractéristique de l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de force. La force, la puissance. La puissance. Nous avons vu que Satan met des joues sur les êtres humains. Et nous avons besoin de sa puissance pour briser les joues sataniques. Dans
Ésaïe
10, verset 27, il est dit que c'est l'onction qui brise le joug. Le joug du péché, le joug de la maladie, le joug de la pauvreté, toutes sortes de
joues
qui sont sur les êtres humains sont brisés par la puissance du Saint-Esprit. Zacharie 4 nous dit la chose suivante.
Zacharie
chapitre 4 verset 6 nous dit que c'est ni par puissance ni par force, c'est-à-dire humainement parlant, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Il y a la puissance dans l'Esprit de Dieu, une puissance, une force que tu n'as pas. Tu peux essayer avec tes forces, mais tu as besoin de lui. C'est pour ça que nous devons dépendre de sa présence. Le Saint-Esprit, cette relation que tu dois avoir avec le Saint-Esprit, t'aidera à maturer spirituellement, à avancer avec Dieu d'une façon particulière. C'est pour ça que tu dois apprendre à développer ta relation avec le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, je veux ouvrir la parole. Et je veux comprendre cette parole. Saint-Esprit, tu vois, là, vraiment, je ne sais pas quoi faire. J'ai tellement besoin de toi. Et vous apprenez à dépendre de lui sur les choses que vous ne pouvez pas faire vous-même. Lorsque tu peux faire les choses, tu n'as pas besoin de Dieu. Parce que là aussi, il y a des gens qui veulent jouer les super spirituels. Et en fait, ils passent complètement à côté des réalités de l'Esprit de Dieu. Et je vois beaucoup de gens comme ça, malheureusement. Quand on commence à enseigner sur le Saint-Esprit, les gens ont tendance à tout spiritualiser. Et ils passent à côté de ce que réellement le Saint-Esprit devrait être dans leur vie. Et ça fait mal parce qu'ils se concentrent sur des choses qui sont des illusions totales. Je vois beaucoup de chrétiens comme ça qui sont peu productifs alors qu'ils devraient être productifs, qui parlent beaucoup de Dieu mais qui ont peu de connaissances du Saint-Esprit. Et c'est vraiment dommage. Donc c'est sa puissance qui va changer les choses. Ensuite, numéro 5, c'est l'esprit de connaissance. La connaissance de Dieu, l'intimité avec Dieu. La première épître de Jean au chapitre 5 au verset 20, 1 Jean 5, 20, nous dit la chose suivante. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc l'intelligence pour connaître le véritable. La Bible nous parle d'une connaissance de Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu avec ta tête, ni avec ton corps. La révélation de Dieu s'est faite par ton esprit. Si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter dans ton esprit. Et c'est lui qui va te donner cette intimité avec Dieu. Rappelez-vous que le christianisme n'est pas basé sur une religion, ni sur des traditions. Vous savez, souvent les protestants critiquent les catholiques. Mais les protestants sont remplis de traditions aussi. Dans beaucoup de domaines, frères et sœurs. Quand on voit des fois j'entends des gens prier, je me dis, mon frère, ma sœur, faut que tu changes ça. Parce que ça ne découle pas d'une intimité avec Dieu. Mais ça découle simplement de trucs que tu as entendus et que tu répètes comme une machine. Il y a beaucoup de gens comme ça, je vous assure. On sent que ce n'est pas une connaissance intime de Dieu. Imaginez-vous, Abraham a été appelé l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Est-ce que Dieu est ton ami? Il n'est pas ton pote, il n'est pas ton copain. Mais il est ton ami intime, normalement.
Ce n'est
pas quelqu'un vers qui tu viens et tu dis, ah, j'ai besoin de ça. Donne-moi ça. C'est une connaissance intime de sa personne. Et là encore, le Saint-Esprit, quand il est venu se révéler à toi, c'est-à-dire il a révélé Jésus, il t'a donné une capacité. Maintenant, de par ta nature, la nature divine qui habite dans ton esprit, tu connais Dieu, Mais il va falloir que tu développes cette intimité avec
Dieu.
Le reflet de ta vie. Ta destinée s'accomplit. C'est le reflet de ton intimité avec lui. Ce ne sont pas tes paroles. Tes prières, tes jeûnes, combien de fois tu viens à l'église, même s'il faut venir à l'église, mais tout dépend de l'attitude qu'il y a derrière. Mais réellement, ce que tu es, ce que tu produis dans le royaume de Dieu, c'est la conséquence, la conséquence de ton intimité avec Dieu. Quelqu'un dit amen.
Amen.
Réfléchissez bien à ce que je vous dis. Le Saint-Esprit est celui qui t'amène dans l'intimité avec Dieu. C'est celui qui t'amène dans la révélation du Père. Parce que tu peux dire Père au nom de Jésus, parce que tu as entendu quelqu'un prier comme ça, mais ce n'est pas une révélation qui est en toi, que tu sais que tu as un Père, que tu as un Dieu qui t'aime d'une façon inconditionnelle. Vous savez, souvent quand je parle avec des nouveaux convertis, je leur montre une chose. C'est la différence entre se savoir aimé et se sentir aimé. C'est très différent. De se savoir qu'on est aimé ou sentir qu'on est aimé. Sentir que tu es aimé va dépendre un peu du moment, des moments par lesquels tu passes. Savoir que tu es aimé, faut bien que tu interprètes ça, c'est pas facile. Hein? Savoir que tu es aimé, c'est que tu es constant dans ton engagement avec Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est facile de dire à Dieu, Seigneur, je t'aime, quand tu viens d'un seul coup d'avoir un boulot qui te donne un salaire multiplié par
5. C'est
facile de dire ça à Dieu.
Oh
Seigneur, je t'aime parce que finalement, mon boulot est extraordinaire. Mon salaire est merveilleux. Tu m'as béni. Ça, c'est facile à dire. Par contre, c'est plus difficile à dire. De dire, Seigneur, je suis dans toutes les galères du monde. Mais je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es avec moi. Et qu'au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Ça, c'est ce savoir. Et ça peut être fait que par une révélation dans l'intimité avec Dieu. Dans les moments les pires de ta vie, quand tu te sais aimé, tu dis
ah,
Seigneur merci, parce que je t'aime Seigneur et je sais que tu m'aimes. Vous savez, parfois c'est bon de passer par des moments difficiles dans nos vies. On n'aime pas ça d'ailleurs. Mais quand rien ne marche des fois dans nos vies ou qu'on est au milieu des tempêtes, ah, ça fait mal. Hein? Quand on n'a pas cette intimité avec Dieu, ce sont des moments difficiles parce qu'on dit vraiment, Seigneur, je prie, il n'y a rien qui avance. Pasteur, je ne comprends pas. Moi, je viens à l'église tout le temps. Je crois que je suis un bon chrétien. J'évite le péché. Je fais tout ce que je peux pour marcher avec Dieu. C'est dur. C'est dur, pasteur. Vraiment. Est-ce que vraiment le Seigneur m'aime finalement?
Oui,
ça, c'est un manque d'intimité avec Dieu. Et quand on passe par des moments difficiles et qu'on apprend à développer cette intimité, je vais vous donner un grand secret qui est très difficile à apprendre. C'est dans les moments les plus difficiles où vraiment tout brûle autour de vous, où rien ne semble aller, où vos prières n'ont pas l'air de percer, mais vous persévérez dans son amour, dans la foi, dans ses promesses, parce que vous vous savez aimé, mais que vous ne ressentez rien. Je vais vous dire une chose, c'est là où vous apprendrez le plus sur Dieu, c'est là où tu apprendras le plus sur Dieu, c'est là où tu sortiras en disant: mon frère, ma soeur, si tu avais su par quoi je suis passé, si je t'avais dit tout ce par quoi je suis passé,
oh,
si je t'avais expliqué tout en détail, je crois que tu aurais fui ce jour-là. Mais j'ai appris quelque chose. Cette intimité avec Dieu. C'est là où justement le Saint-Esprit a son rôle de nous apprendre cette connaissance intime. Ces choses-là seront inoubliables dans ta vie. Vous savez, il y a des choses qu'on n'oubliera jamais dans nos vies. Les moments de vallée. Les moments de vallée, là où on c'est sûr que nous aimons les sommets, nous aimons quand tout marche bien, quand nous voyons la victoire se manifester. Mais sache une chose, avant tout sommet, devant tout sommet, il y a une vallée. Avant de monter en haut,
il faut que
tu passes par le bas. C'est pas agréable.
Mais
si tu apprends à le faire, tu marcheras de sommet en sommet. Et les vallées ne te feront pas peur. Parce que tu verras en disant, en voyant quelque chose, tu diras: ça pour moi c'est plus grand chose. Parce que déjà je connais l'intimité avec mon Dieu. Et partout où je passerai, je sais exactement qui il est. Ensuite, la sixième caractéristique, c'est l'esprit de crainte. L'esprit de crainte. On va réafficher, s'il vous plaît, Ésaïe chapitre 11. Et je vais vous montrer ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur. Il y a beaucoup de gens qui ont quelque part peur de Dieu. Vous savez que ça, c'est la religion. La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, à la fin de ce verset 2 ici, ce n'est pas la peur de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui te fait peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Quand la Bible nous parle de la crainte de l'Éternel, c'est une révérence respectueuse de sa présence.
Ça,
c'est un premier aspect de la crainte de l'Éternel. Le respect de la présence de Dieu. Ce n'est pas la peur de Dieu. Car Dieu a fait de toi son enfant. La Bible nous montre dans la première épître de Jean. La première épître de Jean nous montre quelque chose d'important. Au chapitre 4, au verset 18. 1 Jean 4, 18. Il est dit: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour.
rusenda ubwoba kuko ubwoba bugendana n'igihano kandi ufise ubwoba ntarahingurwa mu rukundo.
Ici on parle de relationnel encore.
Ahanya turiko turavuga ibintu bijanye n'imigenderanire.
Si tu as peur de quelqu'un,
nimba utinya umuntu,
tu ne peux pas avoir une relation équilibrée avec cette personne.
Ntushobora kugirandira nawe imigenderanire ihagaze neza iringaniye neza.
Vous avez remarqué par exemple quand vous avez un patron qui a une personnalité très forte. Les secrétaires sont là. Allô, allô. Et puis d'un seul coup, chut, le patron arrive. Ça, c'est des gens qui ont peur. C'est pas une bonne relation. Ou alors le patron arrive, tout le monde qui commence à grincer des dents. Pourquoi? Parce que le patron arrive, le lion arrive dans la maison. Et il va crier. Ou alors les enfants qui sont là, et la mère qui dit, attention, papa arrive. Et les gamins qui courent dans la chambre, sous le lit. On rigole, mais il y a des drames familiaux. Ou des pères tyrans, soulards, méchants sont en train de projeter une image horrible du père devant les enfants. Et nous savons que ça existe. Comment un enfant comme ça, quand il va grandir, pour avoir une relation équilibrée avec ses enfants? Mais nous, nous avons un papa dans le ciel. Nous avons un papa dans le ciel. Et ce papa, il t'aime. Il ne veut pas que tu aies peur de lui. Quand on parle de crainte, souvent les gens ont une mauvaise image. Ici, la Bible est claire. Il ne peut pas y avoir de quoi? Il ne peut pas y avoir de crainte dans l'amour parfait, c'est-à-dire l'amour mature. Quand une femme craint son mari, a peur de son mari, il ne pourra jamais y avoir une relation équilibrée.
Vous
voyez, quand on parle de crainte, on parle de quelqu'un qui a une autorité par rapport à quelqu'un qui doit se soumettre. Mais qui n'est pas dans une relation équilibrée. Quand quelqu'un se sent sécurisé dans une relation, la personne n'aura pas peur. Au contraire, elle va se sentir à l'aise. Maintenant, elle peut se sentir trop à l'aise. Et parfois, il y a des chrétiens qui se sentent un peu trop à l'aise avec Dieu. Et là, ça déborde. La relation n'est plus équilibrée dans l'autre sens. Dieu n'est pas un dictateur. Mais ce n'est pas non plus ton copain. Ce n'est pas notre copain. C'est notre Dieu, notre Père. Et il doit y avoir cet aspect du respect envers notre Père. Vous savez, il y a des chrétiens. Parfois, ils prient comme ça. Seigneur, si tu ne me donnes pas un mari ou une femme dans l'année, je me marierai avec un inconverti. Ça,
ce
n'est pas la crainte de Dieu. Dieu n'est pas ton serviteur. Si je n'ai pas de boulot, Seigneur, j'irai faire la corruption. Ça, c'est du chantage. C'est du chantage. Tu dois apprendre à respecter Dieu. Vous savez, même dans sa présence.
No mu bwiza bwiwe.
Des fois il y a des gens qui font n'importe quoi.
Hari abantu usanga bifata uko bishakira.
On est en train de louer le Seigneur et ils ont un œil fermé et un œil ouvert sur le téléphone portable pour le prochain message.
Ugasanga turiko turatazira Imana wewe ayirabisha igisho rimwe ayindi igisho riraba telefone message igiritse.
C'est grave, c'est ça. Ou alors ils n'ont pas un respect. Qu'un serviteur de Dieu partage la parole.
Oui,
il m'est arrivé plusieurs fois dans plusieurs églises quand je voyage. Je m'arrête en plein milieu du sermon et je dis, monsieur, là qui sortez et rentrez là. Parce qu'il y en a un qui sort et qui rentre. Soit vous sortez, soit vous restez assis.
Il doit
y avoir du respect
pour
Dieu et sa parole.
On
n'est pas là pour jouer. On n'est pas là pour faire tout et n'importe
quoi. Nous
devons respecter sa
présence.
Nous devons respecter sa présence.
Nous
devons respecter ses
commandements.
Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut infuser ça en toi. Du sérieux avec Dieu. Une crainte respectueuse de Dieu. Une crainte respectueuse. Mais il y a quelque chose de plus grand. Quand tu commences à voir la révélation de la gloire de Dieu, écoutez bien ce que je vais vous dire ici. Parce que c'est une dimension vers laquelle tu dois converger. Au bout d'un moment, la vraie crainte de Dieu, c'est de vouloir ne pas lui déplaire quelque part. Faire quelque chose qui va lui déplaire. Alors quand on dit ça, les gens vont dire, oui, ça veut dire que je vais essayer de ne pas pécher.
Non,
je parle d'une dimension beaucoup plus profonde.
Ne
pas déplaire à Dieu, c'est avoir crainte de faire quelque chose qu'il ne t'a pas demandé de faire. Tu ne fais pas ce qu'il ne te demande pas de faire. Il met quelque chose en toi. Il te dit de faire quelque chose. Tu fais ce que tu dois faire. Tu ne fais pas moins, mais tu ne fais pas non plus plus. Vous savez, nous les serviteurs de Dieu, nous devons faire très attention à cette dimension. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne sont pas utilisés par Dieu comme ils devraient être utilisés. Parce qu'ils ne font pas. Ils ne font pas certaines choses que Dieu leur demande. Et ils font par manque de crainte de Dieu. Ils font des choses que Dieu ne leur a jamais demandé de faire.
Et
je vous assure, cela coûte beaucoup à l'église de Dieu de voir des serviteurs de Dieu qui font des choses qui paraissent très spirituelles mais que Dieu ne leur a pas demandé de faire. Et très souvent, on le voit. La Bible nous dit dans Proverbe 8, verset 13. Ça, c'est pour vous laisser des versets sur ce sujet-là. Verset
13,
oui, c'est ça, oui. 8, verset 13, il dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est la haine du mal. Et rappelez-vous, le mal, c'est aussi ne pas faire quelque chose que tu sais que tu dois faire. Le mal, ce n'est pas seulement faire quelque chose qui fait mal aux autres, entre guillemets. C'est aussi ne pas faire quelque chose que tu es supposé faire. Faire très attention avec cette notion du bien et du mal, parce que les gens ont tendance à confondre beaucoup de choses. Souvent, les gens pensent que faire du bien,
C'est
faire une bonne action. Pas forcément. La Bible va beaucoup plus loin que ça. Faire le bien, c'est faire ce que le Seigneur te demande de faire. Mais aussi, c'est ne pas faire ce qu'il ne te demande pas de faire. Et souvent, les chrétiens confondent tout. Pour eux, faire le bien, bah, c'est faire un orphelinat. C'est donner quelque chose à un pauvre. Oui, c'est faire le bien. Mais il y a des choses que Dieu ne te demande pas de faire. Et fais attention. Il y a des choses que le Seigneur aussi te demande de faire. Et la crainte, c'est vraiment la crainte de Dieu. C'est vraiment faire attention, lui dire, Seigneur, je ne veux pas faire quelque chose que tu ne demandes pas de faire. Je ne veux pas faire aussi le mal, faire une mauvaise action. Mais Seigneur, je veux faire attention à ne pas te déplaire. À ne pas te déplaire. Il y a des moments où tu dois marcher dans la foi. Et tu déplais à Dieu parce que tu ne marches pas dans la foi. Alors que Dieu te demande de marcher dans la foi. Et là, tu déplais à Dieu. Et tu dois faire attention, tu dois dire, Seigneur, je veux t'obéir. Vous savez, il y a une prière qui est difficile à faire. Où Dieu va nous tester. C'est-à-dire, oui, Seigneur, quoi que tu me demanderas, Seigneur, je le ferai. Vous n'avez jamais prié ça? Et puis d'un seul coup, dans ton cœur, il y a quelque chose. Fais ça.
Non,
Seigneur, ça, non, ça, Seigneur, non, ça, je ne suis pas d'accord pour ça.
Vous
savez, Dieu nous teste. Dieu nous teste. Dieu veut vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que c'est facile de dire des belles louanges à Dieu et faire des belles prières. Mais Dieu te mettra à l'épreuve par rapport à ça. Et il verra vraiment si tu le crains ou pas. Septième facette, l'esprit de discernement. Le discernement, c'est quoi? C'est l'aspect du discernement. Le verbe discerner et juger, c'est à peu près la même chose, en tout cas dans le grec. Juger, discerner. En fait, je dirais que le discernement, c'est connaître la source. La source. Et ça, c'est quelque chose qui est très important que le Saint-Esprit nous enseigne. D'apprendre à savoir quand tu vois quelque chose. De naturel ou de surnaturel. Quelle est la source qui vient derrière tout ça? Parce qu'il y a trois sources possibles. La première source, c'est la source divine. Dieu qui agit dans quelque chose, dans une situation. Une autre source, peut-être les circonstances, le naturel. Et des fois, je vous assure, moi je me suis retrouvé dans des situations où dans le naturel, on aurait dit que c'était Dieu. Mais je peux vous dire que ce n'était vraiment pas le Seigneur. Et la troisième source, c'est la source satanique. Le Saint-Esprit veut t'enseigner à discerner les sources. C'est très important dans ta vie spirituelle. Il y a beaucoup de gens quand ils font des commentaires sur des choses qui peuvent se passer par rapport à une situation donnée, beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens n'ont aucun discernement spirituel. Ils sont là, ils voient une situation, ils disent c'est Dieu. Tu leur dis non, c'est pas Dieu. Si, si, c'est Dieu.
Tu
leur dis non, c'est pas Dieu. Si, 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 c'est Dieu.
Beaucoup
de chrétiens que je connais manquent d'un discernement évident pour voir les sources. Ne pense pas que des bonnes circonstances ou des mauvaises circonstances sont forcément toujours attachées à la même source. Absolument pas. S'il y a la foi quelque part, cela va provoquer la puissance de Dieu. S'il n'y a pas la foi, cela peut être des circonstances naturelles. Mais parfois aussi, cela peut être un piège du diable. Et il est très étonnant de voir que si peu de chrétiens savent reconnaître là où Dieu est à l'œuvre. Je vous assure, je le vois souvent. Des gens qui sont là, qui se trompent de source et qui ruinent leur destinée divine. Si tu veux vraiment apprendre quelque chose dans la vie spirituelle, il va falloir que tu écoutes le Saint-Esprit qui habite en toi. Dieu met des informations internes. Dieu connaît des choses que ta tête ne connaît pas. Le Saint-Esprit qui habite en toi communique avec ta nature spirituelle. Mais il va falloir que tu apprennes à l'écouter. Et c'est au fil des années que tu vas commencer à petit, je dirais, développer ce discernement dans ta vie. Beaucoup de gens pensent que le discernement est un don qui vient de Dieu directement, c'est-à-dire, d'un seul coup, Dieu donne un don de discernement à Steve. Non,
ce
n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le discernement, c'est du flair spirituel, entre guillemets. C'est-à-dire, tu ressens les choses spirituellement. Tu arrives devant une situation et tu es capable de discerner la source. Et tu es capable, d'après ça, prendre des directions. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas développé cette relation avec le Saint-Esprit. Ce qui les amène souvent à faire des erreurs, à utiliser des circonstances et à mettre leurs conclusions dessus. Toute bonne circonstance, je tiens à le répéter, ne vient pas forcément du Seigneur. Il y a d'excellentes circonstances qui des fois ne sont absolument pas du tout de Dieu. Et des chemins que des chrétiens prennent avec ça. Parce qu'il manque de discernement. Quand, par exemple, tu rencontres quelqu'un, tu le salues, tu parles avec cette personne. Écoute ton esprit. Écoute ton esprit. Apprends à écouter de ton esprit. Bien des fois, le Saint-Esprit mettra des choses en toi. Il te montrera si vraiment cette relation t'amènera loin avec la personne. Ou si cette relation, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Rapidement, si tu développes ce côté, cette facette de l'Esprit de Dieu en toi, tu apprendras dans des situations à t'impliquer ou à ne pas t'impliquer. Ça, c'est très important. Ça s'appelle le discernement spirituel. Et cette facette du Saint-Esprit est très importante. Elle n'est pas du tout spectaculaire.
Ce
n'est pas une grande voix que tu vas entendre. Une vision que tu vas avoir. Mais dans ton esprit, c'est des informations internes, des convictions que le Saint-Esprit a en toi. Tu sais à ce moment-là que tu es au bon endroit, au bon moment, à faire la même chose. Ce qui est souvent un catalyseur pour la bénédiction de Dieu dans nos vies. Par contre, il y a des fois Tu entres là dans une relation, tu fais certaines choses.
Et
ton esprit à l'intérieur ne témoigne pas que ça vient de Dieu. Fais attention à cela. C'est comme ça qu'on perd de l'argent. Je pourrais vous en raconter des histoires comme ça. Moi, j'ai perdu de l'argent bêtement. Stupidement. Parce que les circonstances étaient bonnes. Mais l'Esprit de Dieu en moi contestait. Mais les circonstances étaient bonnes. Et tu mets ton argent là. Et après, tu perds tout. Je dois être le seul là-dedans. Parmi vous qui avez perdu de l'argent. Non? On a tous fait des bêtises comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas écouté. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais mon thème, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'était juste les sept facettes du Saint-Esprit. Revenons donc à l'Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6 maintenant. Versets 5 et 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. De la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Donc nous étudierons le fait que Jésus est le souverain des rois de la terre. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des gens qui dirigent sur la terre. Nous sommes dans un temps et nous verrons le temps dans lequel nous sommes où il y a des pays et chaque pays a un dirigeant. Les systèmes de ce monde, nous le verrons dans les prophéties de Daniel et nous verrons leur accomplissement au travers de l'Apocalypse. Les systèmes de ce monde seront renversés, complètement bouleversés. Parce que Dieu est le propriétaire de la terre. Et ce sera le seul à régner sur sa propriété. Tous les systèmes que vous voyez aujourd'hui seront complètement détruits. Seront complètement détruits pour laisser la place au seul roi qui a le droit de régner. À notre Seigneur Jésus-Christ. Qui viendra établir son royaume. Au verset 6, à la fin du verset 5, pardon, il est dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. L'évangile est un évangile d'amour, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas un évangile de crainte. C'est un évangile de libération. Le Seigneur est venu nous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est bien sûr qu'il nous a délivrés de nos péchés. Ça, c'est le cœur de la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le péché était l'obstacle. Le mur qui mettait une séparation entre Dieu et l'homme. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Dieu avait un problème avec l'homme depuis 4000 ans. Depuis Adam, 4000 ans plus tôt, avant l'avenue de Jésus, Dieu avait le problème suivant avec l'homme, son péché. La raison numéro un pour laquelle Jésus est venu dans ce monde, c'était pour régler le problème du péché. Pour ceux qui se repentiraient et qui l'accepteraient comme sauveur. Pourquoi ? Parce que le péché entraîne la mort. Donc, la domination du diable sur les êtres humains. Les religions n'ont jamais réglé et ne régleront jamais le problème du péché. La religion tient l'homme dans la crainte. Nous n'avons pas un évangile de crainte, mais un évangile de libération. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est pour ça que je ne supporte pas les enseignements qui disent que les chrétiens sont sous des malédictions. Je ne supporte pas cette dégradation de ce que mon Seigneur a fait à la croix du calvaire. Quand on va dire que le diable est très puissant, qu'il faut chasser tous les démons toujours de nos vies, on dégrade ce que mon Seigneur a fait. Je ne supporte pas les enseignements qui nous parlent de malédiction générationnelle. Comme quoi, parce que nous avons fait ça et ça, alors aujourd'hui nous sommes encore maudits. Parce que cela dégrade ce que Jésus a fait à la croix. Et c'est inacceptable. Je ne supporte pas les enseignements qui disent que nous avons à nous battre contre le diable comme si le diable n'avait pas été vaincu. Comme si nous devions attendre un autre Jésus, que son salut n'était pas parfait, complet et total. Je ne supporte pas ça. Cela irrite mon esprit. Quand il y a des gens qui essayent constamment de nous remettre sous l'ancienne alliance, de nous dire que parce que nos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents ont péché, alors voilà pourquoi maintenant il faut qu'on se débrouille. Hein. Et qu'il faut que Dieu nous révèle pourquoi est-ce qu'il y a ça et ça encore dans nos vies. Je ne supporte pas ces enseignements. Parce que quand on regarde la révélation de la parole de Dieu, Jésus en a totalement terminé avec le péché dans nos vies. Lorsque Jésus t'as pardonné ton péché, il ne s'en souvient plus. C'est pour ça que je ne supporte pas non plus des enseignements qui disent qu'il faut aller écrire tous les péchés que t'as fait depuis que t'es tout petit sur un cahier et demander les uns après les autres pardon pour chaque péché alors que tu ne t'en souviens pas. Non, il nous a délivrés. Entièrement délivrés. Il ne va pas nous délivrer. Il ne nous délivre pas. Mais il nous a délivrés. Par son sang. Parce que son sang est puissant. Son sang a tout pouvoir. Et il a eu tout pouvoir pour nous délivrer complètement. Et c'est pour ça que ce verset commence qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qu'il continue au verset 6. Et qui a fait de nous un royaume. Nous sommes son royaume. Mais les gens ont du mal à le comprendre. Le business de Dieu. En envoyant Jésus, c'était de restaurer le royaume. Et les prophéties maintenant que nous avons, ça va être d'instaurer son royaume sur la terre. C'est-à-dire de le rendre complètement visible jusqu'à tant que Dieu soit tout en tous. Aujourd'hui, au travers du sacrifice de Jésus, Dieu a restauré le royaume dans nos cœurs. Mais il viendra, c'est l'histoire de la Apocalypse, l'histoire de l'Apocalypse, c'est l'instauration du royaume de Dieu. Pour que, comme disait Paul dans la première épître de Corinthiens, Dieu sera tout en tous. Aujourd'hui, la création a connu la corruption. Mais Dieu est en train de faire quelque chose. Mais d'abord, je vais faire un petit retour en arrière. Parce que je veux que vous ayez cette vision de la restauration et de l'instauration du royaume. Il faut que vous compreniez ces principes. C'est très important. Parce que quand vous œuvrez pour Dieu, quand vous prêchez l'évangile, je veux que vous ayez des motivations derrière, que vous travaillez pour l'éternité. C'est le privilège que Dieu nous a donné, non pas de travailler pour des choses qui sont périssables. Nous devons utiliser les choses périssables pour travailler pour l'éternité. C'est ce à quoi Dieu t'appelle. Oui, tu vas utiliser les choses périssables. Oui, tu vas utiliser ce que tu as et tu le mets au service de Dieu. Oui, tu vas créer des richesses qui sont périssables. Pourquoi faire ? Pour pouvoir soutenir ce qui est éternel, la prédication de son évangile. C'est ce à quoi tu es appelé, mon frère, ma soeur. C'est pour ça qu'il a fait de toi un royaume. Le royaume. Le royaume. Il a fait de nous un royaume. Là, il parle aux chrétiens nés de nouveau. Le royaume a été perdu. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a créé un jardin de délices, Éden en
hébreu.
Dans ce jardin, il y avait la perfection. La perfection divine. Rien n'avait été touché par le péché. Lorsque Dieu crée Adam et Ève. Adam et Ève ont la dimension à la fois spirituelle de Dieu. Ils voient Dieu. Ils voient les anges. Ils voient les archanges. Ils voyaient Dieu. Dieu venait les visiter. Leur corps, leurs yeux pouvaient voir Dieu. Leur corps soutenait sans aucun problème, pouvait contenir la gloire de Dieu. Vous savez, il y a des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas dans la Genèse. Dans l'histoire de la Genèse, Adam et Ève avaient cette capacité qui pour nous serait surnaturelle, mais pour eux était naturelle, entre guillemets. De voir dans le monde spirituel et le monde matériel. C'est pour ça que quand ils se regardaient, ils ne se voyaient pas nus. Ils se voyaient couverts de la gloire. Ils marchaient avec la gloire de Dieu sur eux. On a du mal à comprendre ça, frère et
soeur.
Parce que nous, quand nous sommes venus depuis le premier jour dans ce monde, nous sommes venus avec la transmission de ce corps mortel. Donc nous avons du mal à comprendre que nos cinq sens ont été hérités de la corruption du péché d'Adam et Ève. Au niveau de notre corps, ce qui fait que nous n'avons jamais connu cette condition d'avoir un corps non mortel, un corps qui peut être en communion avec Dieu, ce qui était le cas d'Adam et Ève, esprit, âme et corps. Mais quand ils ont péché, cela leur a fait tellement bizarre que Adam a eu peur, qu'ils ont connu qu'ils étaient nus. Il y a plein de choses qui se sont produites en eux qu'on a du mal à comprendre parce que nous, on ne peut pas vivre ces choses. Eux, ils ont connu, ils étaient dans la gloire et ils ont connu la déchéance du péché. Ils étaient dans le royaume. Ils étaient le royaume. Dieu avait étendu sur la terre son royaume céleste avec la dimension du matériel, la dimension des choses matérielles. C'était ça la terre au départ.
Ici,
le royaume de Dieu.
Lorsqu'Adam
et Ève ont péché, ce royaume est perdu. Le diable prend la gestion de la terre. Et Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Il va reprendre sa propriété. Il va la nettoyer. Et il va venir régner avec ceux qui auront dit oui à son évangile. C'est l'histoire que nous allons lire dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est cette histoire-là. Là, nous sommes dans la restauration du royaume dans nos cœurs. Et nous verrons aussi que ce royaume doit influencer nos vies et notre entourage. Ça, c'est le sujet que je traite le dimanche actuellement dans le monde invisible. Donc, j'en parlerai aussi dans l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse, c'est l'histoire de l'instauration. Comment ce royaume va être instauré sur la propriété de Dieu? Donc, il va falloir d'abord sélectionner ceux qui veulent entrer dans le royaume. C'est ce que Dieu est en train de faire depuis que Jésus est mort sur la croix. Tous ceux qui disent oui à l'évangile,
hop,
le royaume de Dieu vient en eux. Mais rappelez-vous ce que Jésus a dit. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est pour ça que quand quelqu'un devient une partie du royaume de Dieu, entre dans le royaume de Dieu, ça ne se voit pas. Le jour où Steve a donné sa vie à Jésus, à l'extérieur, il était identique. Il n'avait pas perdu sa mémoire, sa sensibilité, ses désirs. Il les a sanctifiés après, mais ça, c'était un autre problème. Il a changé ses pensées après. Ça, c'était sa sanctification. Mais le jour où le royaume de Dieu est venu en lui, ça ne s'est pas vu à l'extérieur. Parce que c'est spirituel. Dieu est en train de se préparer un peu. À chaque fois que tu amènes une âme à Jésus, ce royaume grandit. Ce royaume grandit. Mais il ne vient pas de manière à frapper les regards. Sauf le jour où il viendra l'instaurer sur la terre. Et nous allons voir les étapes. L'Apocalypse nous révèle les étapes de l'instauration du royaume. Comment Dieu va venir un jour. D'abord enlever ses bien-aimés et frapper ceux qui seront restés. Nous verrons que certains vont crier à lui quand même. Et comment il va éjecter le gestionnaire. Nous verrons, c'est l'histoire de l'Apocalypse. Comment il viendra aussi accomplir ses promesses à Israël. Israël.
Israël
qui a tant loupé sa destinée. Israël, la seule nation qui connaissait le vrai Dieu vivant. Israël qui était supposé avoir la connaissance de Dieu et transmettre dans le monde la connaissance de Dieu. Israël qui a tant failli à sa mission, mais qui à la fin, pendant 1000 ans, aura le règne de celui qu'ils ont rejeté, mais qu'ils accepteront en masse juste à la dernière minute. Nous verrons cela dans l'Apocalypse, la destinée d'Israël. Mais ça, ce n'est pas l'instauration du royaume tel que c'était dans la pensée originelle de Dieu. Moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il a une idée dans la tête, excusez-moi l'expression, il n'y change pas. Il a dit, la terre est ma propriété. Je vais établir mon royaume sur la terre. Et Dieu n'a pas changé d'avis. Il viendra le faire. Et c'est exactement l'histoire de l'Apocalypse. Instaurer le royaume. Là, il est en train de restaurer le royaume en nous. Mais il viendra instaurer son royaume. Tout sera Dieu et Dieu sera tout. Quand l'histoire sera, de l'humanité sera terminée, nous verrons que sur cette terre, rien, il n'y aura pas une trace de la corruption du péché. Et Dieu va être obligé de passer par des étapes. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrificateur? Le sacrificateur dans l'Ancien Testament, c'était celui qui représentait le peuple auprès de Dieu. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y avait trois types de personnages qu'on le voit. Le roi,
umwami,
le prophète
umuvugishwa,
et le sacrificateur.
N'umuherezi.
Chacun avait un rôle.
Umwe muri abo yari afise igikorwa.
Le roi d'Israël représentait la royauté divine, c'est-à-dire Dieu,
umwami
w'Israël, par rapport au peuple.
Yasa n'ugaragaza ubwami ubumana bw'Imana ku isi imbere y'ihanga.
Le prophète, lui, il représentait la voix de Dieu vers le peuple. Le sacrificateur, il représentait quoi? Il représentait le peuple envers Dieu. C'était le sacrificateur qui recevait les sacrifices, qui devait faire d'une certaine façon un service qu'on appelle le sacerdoce, le ministère si vous préférez. Donc prendre les sacrifices, faire un certain nombre de choses, vous trouverez ça dans les premiers livres de la Bible. Entre autres dans Lévitique qui vous explique beaucoup de choses là-dessus. Et en fait, le sacrificateur apprêtait selon la loi divine le sacrifice.
Il faisait
couler le sang d'une certaine façon. Il brûlait d'une certaine façon le sacrifice. Mais ce que la personne qui donnait le sacrifice voulait, c'était le sacrificateur qui le présentait devant Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes le corps. La Bible nous donne cette révélation du corps. Le corps de Christ. Christ est la tête. La tête est dans le ciel. Le corps, c'est l'Église. Et quelle est la différence entre la tête et le corps? La tête, toujours, c'est le décisionnel. Nous réfléchissons, nous raisonnons. Et notre tête donne des ordres à notre corps. C'est ta tête qui raisonne, qui réfléchit, qui est le centre de toutes les informations. Et c'est à partir de ta tête que ton cerveau va envoyer des informations aux membres de ton corps pour faire quelque chose. Ton corps n'agit pas tout seul. Il agit sur ordre de ta tête. La Bible nous donne cette analogie que Jésus est la tête et que nous sommes le corps. Jésus est à la droite du Père au ciel. Nous sommes sur la terre. Et la Bible nous dit que nous sommes les sacrificateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, dans la prière, tu as un accès pour présenter les besoins humains et pour voir ses besoins humains d'être répandus sur la terre. Ceux qui représentent Dieu sur la terre aujourd'hui, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau, tu es dans le royaume. Tu as un accès auprès du Père dans le nom de Jésus. Tu as le droit d'utiliser le nom de Jésus pour représenter Dieu sur la terre. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom. Etc. Ils feront. Tu agis dans le nom du Seigneur avec une procuration divine. Tu reçois les instructions du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, qui est assis à la droite du Père, et tu agis selon ses instructions. Une partie de ses instructions sont dans sa parole écrite. Une autre partie de ses instructions sont données directement par le Saint-Esprit. Et nous les exécutons. Nous sommes les sacrificateurs. Mais pas à la mode de l'Ancien Testament, selon le sacerdoce de l'Ancien Testament. Nous avons beaucoup plus de choses. Vous savez, le sacrificateur, quand il s'approchait de la présence de Dieu, s'il faisait un faux pas ou une gaffe quelconque, il pouvait être foudroyé directement par la présence de Dieu. Parce que lui, c'était un pécheur qui avait un accès très limité pour présenter certaines choses devant Dieu. Toi, tu appartiens au royaume. Tu as un accès ouvert devant le Père. C'est pour ça, frères et sœurs, que l'Église doit prendre sa place dans la prière. La Bible nous dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Tu es juste devant Dieu. Tu as été déclaré juste devant Dieu. Et il serait peut-être temps que tu te réveilles et que tu saches que tu as une capacité de voir la puissance de Dieu agir sur la terre. Parce que Dieu nous a laissés. Vous savez, je me suis un jour posé la question, j'ai vraiment posé la question au Seigneur. Je dis, mais Seigneur, pourquoi après tout? Pourquoi après tout? Quand quelqu'un naît de nouveau, il
ne
part pas directement au ciel. On pourrait se poser la question quand même. Quelqu'un reçoit Jésus et hop, il meurt, il part au ciel.
Je ne sais pas
si on pourrait beaucoup prêcher l'évangile parce qu'on serait traité d'assassin. À chaque fois qu'ils prêchent l'évangile, ces gens-là, il y a 100 personnes qui meurent, 5 personnes, 20 personnes qui meurent. Mais honnêtement, on pourrait se demander, on pourrait se dire, mais après tout, la mort est un gain, allons au ciel tout de suite. Et le Seigneur m'a montré plusieurs choses par rapport à ça. Bon, d'abord, c'est sûr que nous n'allons pas au ciel directement parce que ça serait un drame dans les familles. Mais aussi, Dieu a besoin de son corps pour agir. Beaucoup de gens ne comprennent pas leur rôle. Ton rôle, c'est de prier pour les autres. Tu représentes les autres devant Dieu. Tu pries pour leurs besoins. Tu pries pour leur salut. Sache une chose, avant que tu sois sauvé, il y a des gens qui ont prié pour toi.
Et
il y a beaucoup de gens, vous savez, il y a des chrétiens, ils ne sont pas reconnaissants par rapport à ça. Il y a des gens qui ont prié pour toi pour que tu sois sauvé. Ils t'ont représenté devant le Père en disant: Dieu, tu vois cette personne, tu vois mon frère, tu vois mon papa, tu vois ma maman, tu vois ma soeur, tu vois mon cousin, tu vois mon collègue de travail, tu vois tel ou tel père, mon voisin, tu vois cet enfant, tu vois Seigneur,
et
tu l'as présenté devant Dieu. Il a pris sa position de sacrificateur pour Dieu. Tu es un sacrificateur, c'est ça que ça veut dire. Être un sacrificateur, c'est pas avoir un espèce de chapeau comme dans l'Ancien Testament et avoir une toge avec tout un tas de trucs ici. Ça, c'était une ombre des choses à venir. Mais tu as une puissance dans la prière. Tu te dois.
Te
représenter des besoins humains. Parce que toi, tu as le droit de venir auprès de ton Père au nom de Jésus et de voir ses besoins humains répondus. C'est ton droit et c'est ton devoir. C'est pour ça que Dieu a fait de toi un sacrificateur. Tu es dans le royaume, mais Dieu a fait de toi un sacrificateur. À chaque fois que tu pries, prends ta position. C'est pas la peine de dire: oh Dieu, je suis un sacrificateur. Il y a des gens qui prient des trucs. Ils ont des expressions devant Dieu. L'important, c'est que tu comprennes ce que tu fais. C'est ça qui est important. Quand tu te mets à prier pour quelqu'un d'autre, c'est exactement ce que tu fais. Tu représentes Dieu sur la terre. C'est ce qu'il dit. Sacrificateur pour Dieu, son Père. Le Père est au ciel, au troisième ciel. Toi, tu es sur la terre. Et s'il t'a laissé là, c'est parce que tu as un rôle de sacrificateur. Tu dois apprendre à prendre ta place et à venir devant le trône de Dieu avec assurance pour voir la puissance de Dieu, être libéré dans la vie de ce pour qui tu pries, pour qu'il soit sauvé, pour qu'il soit rempli, pour qu'il soit délivré, pour qu'il soit guéri, pour qu'il soit transformé, pour qu'il soit influencé par Dieu, pour que le royaume de Dieu puisse se manifester dans leur vie. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit la semaine prochaine.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.